Le journal, Régis Meria, bonsoir.
Bonsoir, les habitants de Bienne et Villars-et-Macolin peuvent à nouveau boire l'eau du robinet. Une partie du réseau avait dû être traitée au chlore hier en raison d'une contamination bactérienne. Le laboratoire cantonal a levé l'alerte ce matin. À Bienne toujours, les anciens membres de la Ligue marxiste révolutionnaire ouvrent leurs archives. Plus de 50 ans après la création du parti, ils reviennent sur leur lutte politique en ressortant des dizaines de documents. La course des pavés vivra sa 29e édition samedi, à deux jours du départ de la course pédestre de Lanneville, le record d'inscription a déjà été battu. Météo, le temps restera sec ce soir et cette nuit. Le ciel va peu à peu se dégager. Demain matin, il faudra compter avec quelques brouillards, avec une limite supérieure vers 1000 mètres. Des brumes qui se déchireront en grande partie l'après-midi. Pour les températures, vous compterez avec un maximum de 6 à 7 degrés sur la région. L'eau est à nouveau potable à Bienne, Macolin et Villars. Une partie du réseau avait dû être traitée au chlore hier en raison d'une contamination bactérienne. Le laboratoire cantonal a levé l'alerte ce matin. Et selon les derniers résultats d'analyse effectués, plus aucune bactérie n'a été détectée. Nous avons voulu savoir si cette contamination avait représenté un danger pour la population. La réponse de Léna Franck, directrice de l'énergie, de l'environnement et des constructions à Bienne.
Mais il y a toujours un risque s'il y a des bactéries dans l'eau, ça c'est clair. La concentration, elle n'était pas si haute que c'était un problème très grave. Mais pour des personnes qui sont sensibles, c'est possible qu'il y a des symptômes qui se développent. Ça serait des symptômes gastro-entérologiques comme on les connaît quand on a une grippe. Donc là, c'est important de voir s'il y a quelque chose qui se développe. Mais on part du principe que normalement, il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a aucune manifestation par la population qui a quelqu'un avec des symptômes.
On l'a dit, cette contamination a aussi touché Villars et Macolin. Durant quelques temps, le réseau d'Orvin était aussi relié à cette commune en raison d'un problème de bactéries. Anthony Montandon a voulu savoir si c'était toujours le cas. La réponse de Madeleine Decker, maire de Villars et Macolin.
Oui, c'est toujours le cas, mais c'est aussi maintenant le cas qu'on peut dire qu'il n'y a rien dans l'eau avec ces résultats.
Vous-même, vous avez pris contact avec les autorités d'Orvin?
Oui, on a contacté les autorités d'Orvin ainsi que, bien clair, le fontainier.
Un dossier réalisé par Anthony Montandon et Alexandre Michler a noté que la cause de la contamination fait l'objet d'une enquête approfondie selon Énergie Service Bienne. À Bienne toujours, les anciens membres de la Ligue marxiste révolutionnaire ouvrent leurs archives plus de 50 ans après la création du parti. Ils reviennent sur leur lutte politique en ressortant des dizaines de documents, des interviews, des photos, des vidéos et même des fiches de la police fédérale. Droit du travail, féminisme ou immigration, toutes les sources ont été classées par thème et sont en libre accès à partir d'aujourd'hui sur leur site internet. L'Arc Horloger est déjà reconnu pour son ancrage ouvrier et ses batailles anarchistes, mais Marité Sautebin, cofondatrice de la Ligue marxiste révolutionnaire biennoise, nous explique pourquoi c'était important de rendre aujourd'hui ces archives publiques.
Nous avions besoin de remettre à jour ce que nous avons fait pour nous, mais pour aussi faire témoignage aux jeunes dans le milieu des historiens, de façon à ce que ces années-là, qui ont quand même été extrêmement vivantes, extrêmement engagées, pour nous, mais pour des milliers de gens dans toute l'Europe, dans le monde entier, au lendemain de 68, ne soit pas oublié et que le sens de nos activités soit retravaillé.
En quoi ce travail de mémoire pourrait intéresser, voire enrichir les luttes actuelles et de quelles luttes on parle précisément?
Évidemment, nous n'avons aucune leçon à donner. Par contre, nous témoignons de nos convictions. Nous ne sommes pas restés indignés assis à la maison. Je prends des exemples. Face à la fermeture de Bulova, face à l'introduction du travail de nuit des femmes à Marin, dans l'horlogerie, face au putsch du Chili, aux antifranquistes espagnols, face à la révolution sandiniste au Nicaragua, nos réponses collectives, c'était rédiger un tract pour informer, parce qu'il n'y avait pas l'information comme il y a aujourd'hui, manifester dans la rue éventuellement, distribuer à la porte des usines pour informer les ouvriers et ouvrières de ce qui était en train de se passer dans leur dos, parce que nous avions souvent des sources qui pouvaient les intéresser. Et donc, face à tous ces événements, nous apportions une réponse collective à travers des activités publiques.
Quelle est la bataille la plus marquante pour vous, celle qui résonne particulièrement dans vos souvenirs?
Le démantèlement de l'horlogerie, qui était passé de 100 000 à 30 000 travailleurs et travailleuses, et puis les luttes pour les droits des femmes. J'ai déposé au conseil de ville en 84 une interpellation pour demander quelles étaient les statistiques sur les dépôts de plaintes pour violences conjugales. On m'a dit, ça n'existe pas comme rubrique. Alors, on a levé une série de sujets, on a détabouisé pas mal de choses.
Toutes les archives de la Ligue marxiste révolutionnaire biennoise sont désormais ouvertes au public. Vous les retrouvez sur le site lmrrml-bienne.ch. La formation des enseignants primaires fait sa mue dans la région. La HEP Béjune a présenté ce matin une flexibilisation de la durée des études dispensées sur les sites de Delémont et La Chaux-de-Fonds. Dès la rentrée prochaine, les étudiants auront la possibilité de se former à temps partiel en 5 ans maximum contre 3 ans à temps plein actuellement. L'objectif est de permettre à un public plus large d'accéder à la formation et in fine d'augmenter le nombre d'étudiants et donc d'enseignants. Patricia Grotuise, responsable de la filière primaire à la HEP Béjune, explique quel public est visé par ce rallongement possible de la durée d'études.
Ce sont des personnes qui peut-être ont une expérience professionnelle préalable, donc qui se trouvent en reconversion professionnelle. 3 années d'études à plein temps lorsqu'on est en reconversion professionnelle, c'est vraiment très difficile. On a un certain nombre d'étudiants qui l'ont fait, mais ça se compte vraiment sur les 10 doigts de la main pour ces dernières années. Ce n'était pas favorable à permettre une reconversion professionnelle. Ce que l'on souhaite également, c'est permettre à des étudiantes et des étudiants qui deviennent parents de pouvoir bénéficier également ou poursuivre leur formation. D'autre part, effectivement, on a une génération actuellement de jeunes qui peut-être voient autre chose dans leur vie quand ils ont 20 ans que leurs études. Et puis, c'est également pour ce public-là que nous souhaitons permettre cette flexibilisation de la durée des études. Le but, c'est d'augmenter le nombre d'étudiants pour pallier à cette pénurie des enseignants qui arriverait à nos portes de l'espace Béjune.
Selon les expériences d'autres HEP de Suisse, environ 20% des étudiants pourraient opter pour une formation flexible et donc plus longue. La direction de la sécurité du canton de Berne et le conseil du Jura bernois se sont rencontrés dans le cadre de leur séance annuelle. La rencontre a eu lieu le 11 novembre dernier, indique un communiqué publié cet après-midi. La situation sécuritaire dans le Jura bernois a notamment été abordée, ainsi que le recrutement de nouveaux policiers et les incidences sur la police et la nouvelle organisation prévue avec le départ de Moutier dans le canton du Jura. La prochaine séance entre le CJB et la direction de la sécurité se déroulera dans le courant de l'automne 2025. Les pôles de développement économique du canton de Berne ont connu un développement supérieur à la moyenne ces 4 dernières années. C'est ce que montre le 10e rapport intermédiaire du programme des PDE dont le conseil exécutif vient de prendre connaissance. Le nombre d'emplois est passé de 80 000 à 88 000. Les PDE assurent ainsi 15% environ du total des emplois dans le canton de Berne, annonce également un communiqué publié cet après-midi. Pour rappel, le canton de Berne a lancé son programme de pôle de développement économique en 1989. Le but étant de mettre à la disposition de l'économie par des instruments d'aménagement, des surfaces bien desservies, afin de favoriser le développement économique du canton. La désinformation est identifiée comme une menace majeure pour les démocraties. Une série de conférences sur ce thème était organisée aujourd'hui à Lucerne. Des politiciens et des experts se sont penchés sur la confiance en période de crise. Ils étaient invités par le réseau national de sécurité qui regroupe les cantons et la Confédération. Avec les nouvelles technologies, la désinformation prend une nouvelle dimension et pourrait tourner en guerre cognitive, estime Jean-Marc Ricli, directeur des risques globaux et de la résilience au Centre de politique de sécurité de Genève.
Pour ma part, je pense qu'on est sur la 6e dimension de la guerre, où on a la terre, l'air, la mer, l'espace, le cyber, et de plus en plus le cerveau devient le champ de bataille. D'ailleurs, l'OTAN discute d'une doctrine de guerre cognitive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, vous voulez influencer. Si vous arrivez à influencer la façon dont votre adversaire pense, eh bien, vous allez également influencer sa façon d'agir. Et donc, in fine, vous pouvez avoir un avantage stratégique sur votre adversaire. Ce qui est également nouveau, c'est que c'est pas seulement dans le domaine militaire ces technologies-là qu'elles sont adoptées. Les drivers les plus importants, c'est dans le domaine civil. Ce sont des entreprises civiles qui développent ce type de capacité. Et donc là, on voit qu'il y a une démocratisation de ces moyens et après, on a un gros problème de régulation. Comment est-ce qu'on peut gérer ce type de développement ? Parce qu'au moment où ces données sont partagées avec le plus grand nombre, eh bien automatiquement, vous aurez certains acteurs qui risquent de les utiliser à mauvais escient.
Des propos recueillis par Marie Vieumier. Sport. Le FC Tavannes Tramelant décide de faire confiance à ses entraîneurs. Yannick Langel et Fabio De Feo ont été prolongés à leur poste jusqu'à la fin de la saison 2024-2025 de deuxième ligue interrégionale de football. Le club Tavannes Tramelant a témoigné sa confiance aux deux jeunes tacticiens vendredi dernier après que ces derniers aient remplacé Philippe Rossinelli au pied levé à la mi-octobre. Pour le président du FCTT, Loïc Châtelain, ce choix est aussi celui de la continuité.
On avait déjà planifié avec Philippe Rossinelli au début de saison qu'on utilise cette saison pour les former pour le futur. Les résultats ont fait qu'ils ont repris l'équipe un peu plus tôt que prévu. Et puis les six matchs avec lesquels ils ont eu l'occasion d'entraîner ont montré des éléments positifs. L'équipe était derrière eux, il y avait un engouement, il y avait un dynamisme retrouvé. Ils ont amené de la modernité dans les entraînements. Il y a une vraie envie d'aller s'entraîner. C'était compliqué la fin de championnat avec la situation météorologique, mais ils ont fait des entraînements avec 24 joueurs présents. Donc ça démontre quand même un intérêt. Et puis je crois que cette jeunesse, cette modernité dans le foot, mais aussi dans le management, et ce dont on a besoin aujourd'hui.
Des propos recueillis par Yannick Catin à l'heure de la trêve hivernale à la mi-saison. Tavannes Tramelant pointe à l'avant-dernier rang du classement dans la zone de relégation. Un huitième étranger pour le HC Bienne. Le club ceylandais a annoncé cet après-midi avoir engagé l'Américain Anthony Greco jusqu'à la fin de la saison. L'ailier arrive en provenance de l'Ada Togliatti en KHL pour prêter main forte au HCB. L'équipe souffre de l'absence de plusieurs de ses joueurs majeurs, dont les deux étrangers Elias Anderson et Victor Leuve. La course des pavés de la Neuville se diversifie. La course pédestre vivra sa 29e édition samedi. À deux jours du départ, ce millésime bat déjà son record d'inscription. Près de 2200 personnes se préparent à fouler les pavés de la cité médiévale. Pour la première fois se tiendra la course Mérite Plus, un parcours d'à peine plus d'un kilomètre réservé aux personnes en situation de handicap. Cyprien Louis, membre du comité directeur, raconte comment cette version de la course des pavés est née.
On a démarré une collaboration avec Special Olympics. Donc le but, c'est d'analyser l'ensemble de la course, que ce soit les propositions de catégories, une infrastructure, pour faire en sorte que ça soit au maximum accessible à toutes les personnes, en particulier les personnes en situation de handicap. Il y aura quand même un bon petit peloton avec une cinquantaine de personnes qui ont soit un handicap physique, soit un handicap mental. Donc ça, c'est réjouissant. Après, c'est vrai qu'on attend beaucoup de monde en général sur cette édition de la course des pavés. On a déjà près de 2200 inscrits, donc on a déjà pulvérisé nos records de participation alors qu'il y a encore la possibilité de s'inscrire sur place. Donc c'est très réjouissant, disons, pour cette 29e édition.
Des propos recueillis par Yannick Catin. La course des pavés de la Neuville se déroule samedi dès 8h45 avec le départ de la marche nordique. Et voilà qui marque la fin de ces informations. Je vous souhaite une excellente soirée à notre écoute.